Chapitre 8. Petit arrangement entre amis. Devant Christina se tenait un imposant vieillard qu'elle connaissait bien. Ce visage si particulier, les aspérités de sa peau, son éternelle mauvaise mine, son nez tordu, ses sourcils broussailleux. Il tenait en main une canne au pommeau serti de diamants étincelants, dont on murmurait qu'elle valait à elle seule plusieurs millions de francs. C'était Signor Tarnogol. « Est-ce qu'elle est Vovicella ?» demanda Tarnogol qui, malgré un français parfait, ne pouvait pas se départir d'un lourd accent de l'Est. Comme Christina restait interdite, il la dévisagea de son œil mauvais. Elle décida de jouer les idiotes. « Aviez-vous rendez-vous avec lui ? Je ne vois rien dans son agenda. »«
Oui, rendez-vous dans mon bureau, » expliqua-t-il. « Comme il n'est pas venu, je viens voir ce qui se passe. C'est fâcheux de faire poireauter les gens comme ça tout de même. »«
Monsieur Tarnogol, » dit Christina de sa voix la plus aimable, « et puis-je me permettre de vous faire patienter un instant dans le salon rose ?» Quelques instants plus tard, Christina entrait précipitamment dans le bureau de Macaire. « Que se passe-t-il encore ?» s'agaça celui-ci en reposant son exemplaire de 12 hommes en colère. « Je vous ai dit que j'étais occupé. »«
Le rendez-vous de 16 heures, c'est Tarnogol. »
Macaire ouvrit de grands yeux inquiets.
« Tarnogol ? Et que lui avez-vous dit ?»«
Que Levovitch était absent, mais que vous le recevriez. Il a eu l'air très content.
« Je suis désolé, monsieur Ebesner, j'ai désobéi à vos consignes, mais je ne pouvais quand même pas le chasser. »«
Bien joué, ma petite Christina, bien joué !» la félicita Macaire, songeant que c'était l'occasion rêvée de parler à Tarnogol de la présidence et de dégommer Levovitch. « Dans quel salon l'avez-vous mis ?»«
Le salon rose. »
« Bien joué, le salon rose !» la félicita Macaire, car c'était le salon le plus élégant de l'étage. « Allez prévenir Tarnogol que j'arrive. » Christina repartit aussitôt et Macaire en profita pour attraper sa montagne de courriers non traités et la déplacer sur le bureau de Levovitch. Puis il trotta jusqu'au salon rose, comme un chien de chasse flairant un gibier. Il y pénétra, mine réjouie et voix de miel, et se courba devant Tarnogol comme devant le veau d'or.
« Cher signor, quel plaisir de vous voir. Je dois absolument vous parler de ce malentendu à propos de mes voyages et de l'article dans la tribune qui... »«
Il n'est pas le temps pour ça maintenant, »
le coupa Tarnogol.
« Je dois absolument voir Levovitch, c'est très important. »«
Levovitch n'est pas là, » lui expliqua alors Macaire.
« Et où est-il ? » ?»«
Je n'en ai aucune idée. Vous savez, il n'est pas souvent au bureau. »«
Ah bon ?» s'étonna Tarnogol. « Je croyais qu'il venait très tôt tous les matins, qu'il travaillait sans relâche toute la journée. »«
Mais non, cher monsieur Tarnogol, ça c'est une légende. Lui, travailler sans relâche ?»
Il força un rire pour souligner l'ironie de la situation.
« Poil dans la main, c'est son prénom.
On est déjà content quand il débarque ici avant 11 heures le matin, et souvent on ne le revoit pas de tout l'après-midi. Regardez-moi ça, il est 16 heures et l'animal est déjà rentré chez lui. »
« Ça n'est vraiment pas sérieux. »«
Même pas sérieux du tout !» s'indigna Tarnogol.
Macaire, content de son effet, renchérit.
« Je ne devrais pas vous le dire, car je ne veux pas causer de tort à Lev, mais c'est moi qui fais tout ici. Il ne prend d'ailleurs pas une décision sans me consulter. Ce type n'a aucun sens de l'initiative. Avez-vous vu son bureau récemment ? Il déborde de courriers jamais traités. Les clients doivent être furax, quelle honte ! Jamais vu un paresseux pareil.
Mais pourquoi n'as-tu pas prévenu le conseil de la banque ?
Demanda Tarnogol.
Parce que je ne lui souhaite aucun mal, expliqua Macaire sur un ton patelin. C'est un pauvre bougre. Et puis mon père l'aimait bien, alors j'ai un peu pitié du gars. Je veux dire, au fond, il ne fait de mal à personne. C'est pas comme s'il était le prochain président de cette banque.
Ce que j'apprends sur Levovitch est scandaleux,
dit Tarnogol d'un air consterné.
« Scandaleux !»
répéta Macaire en hochant la tête avec dépit.
« Rends-toi compte, j'étais sur le point de nommer Levovitch président de la banque. »«
Ah bon ?»
fit semblant de s'étonner Macaire.
« Levovitch président ? Mais il va couler la banque en un rien de temps. »«
Enfin, c'est vous l'actionnaire, pas moi. »«
Il m'a pourtant toujours fait si bonne impression !»
rétorqua Tarnogol.
« Ah, vous savez, mon cher signor, les grands imposteurs, c'est souvent comme ça. »
Tarnogol se leva et fit quelques pas dans la pièce. Il semblait perplexe.
« Tout va bien, monsieur Tarnogol ?
s'inquiéta alors Macaire.
Non, ça ne va pas du tout. Je devais voir Lebovitch aujourd'hui pour lui demander un service très important. J'ai lui-même dit « rendez-vous très important » et il n'est pas là. Je suis affreusement déçu.
Peut-être que moi, je peux vous aider, suggéra Macaire qui buvait du petit lait. Tarnogol considéra Macaire un instant.
« Je n'en suis pas sûr, » dit-il. « C'est vraiment très sensible. »
« Nous nous sommes pourtant fait confiance il y a 15 ans, » plaida Macaire. « C'est la raison pour laquelle vous êtes vice-président de la banque aujourd'hui. »«
J'ai respecté le pacte, moi aussi, »
rappela Tarnogol.
« Tu as eu ce que tu voulais en échange de tes actions. »«
Précisément, mon cher ami, » osa Macaire. « Nous pouvons donc avoir une totale confiance mutuelle. Faisons un nouveau pacte. » Tarnogol, après un interminable moment de réflexion, finit par dire
« C'est d'accord. Je te propose un marché, Macaire. Les services que je voulais demander à Lebovitch, je vais t'en charger. En échange de quoi, je te nommerai président de la banque. »
Marché conclu, approuva Macaire en se jetant sur la main de Tarnogol pour la serrer vigoureusement.
« Que puis-je faire pour vous ?»« Il faut simplement réceptionner pour moi une enveloppe, » expliqua Tarnogol. « Rien d'illégal, rien de dangereux. »«
C'est tout ?» s'étonna Macaire.
« C'est tout, » affirma Tarnogol. « Très facile. »«
Très facile ?» répéta Macaire comme un perroquet. « Et après ?»«
Après, tu me rapportes l'enveloppe chez moi, » indiqua Tarnogol.
« C'est tout ?»«
C'est tout. »«
Très facile ?»«
Très facile. »
Les deux hommes quittèrent le salon rose satisfaits. En raccompagnant Tarnogol à l'ascenseur, Macaire, comme il passait devant leur bureau et qu'il remarqua que Christina s'était absentée, proposa à Tarnogol d'aller jeter un coup d'œil sur le bureau de Lebovitch. Il lui désigna, depuis le pas de la porte, la table de travail jonchée de courriers. « Regardez-moi tout ce courrier laissé sans réponse, » déplora Macaire. « C'est révoltant. »«
C'est scandaleux !»
s'indigna Tarnogol, trop loin pour voir que les lettres étaient adressées à Macaire.
« Comment ai-je pu imaginer Lebovitch président de cette banque ?»
« Tout le monde peut se tromper, cher signor, » lui dit Macaire. « L'erreur est humaine. » Aussitôt que Tarnogol fut parti, Macaire se dépêcha de ramasser le courrier sur le bureau de Lebovitch et d'aller l'entasser sur le sien. Puis il s'affala dans son fauteuil et laissa l'euphorie l'envahir doucement. Il ne s'était jamais senti si heureux. À lui la présidence de la banque Ebesner. Il avait réussi à infléchir le cours de son destin sans même avoir besoin de manigance. Il attrapa son exemplaire de 12 hommes en colère et le considéra avec mépris. Plus besoin de lire ce machin. Il rendrait un infime service à Tarnogol et il serait assuré d'être président. La vie était belle. Se basculant dans son siège, il consulta sa montre. 16h30. Il pouvait rentrer chez lui. Sacrée journée quand même. À ce même moment, à Coligny, dans la splendide maison des Ebesner, Arma, l'employé de maison, avait l'oreille collée contre la porte de la chambre à coucher de ses patrons. Anastasia venait de recevoir un mystérieux coup de téléphone. Comme toujours, c'était Arma qui avait d'abord décroché.
« Demeure Besner, bonjour !»
avait-elle poliment répondu, ainsi qu'on le lui avait appris. À l'autre bout du fil, une voix d'homme qui avait demandé Medem sans se présenter. Medem était à côté d'elle, et Arma lui avait passé le combiné, mais en entendant la voix de son interlocuteur, Medem avait aussitôt transféré la communication dans sa chambre à coucher avant d'aller s'y enfermer. C'était très étrange. Medem ne faisait jamais ça. Intrigué, Arma avait donc décidé d'aller écouter ce qui se passait. « Tu es complètement fou de m'appeler ici, Lev !» s'agaça Anastasia dans ce qu'elle pensait être le secret de sa chambre.
« Je me suis dit que tu ne me répondrais pas sur ton portable, »
se justifia Lev à l'autre bout de la ligne.
« Tu as parfaitement raison, » répliqua Anastasia. Parce que je ne veux plus ni te parler, ni te voir.
Moi, je me réjouis de te voir ce soir, ma chérie.
Ne m'appelle pas ma chérie. Ne m'appelle plus du tout. Je t'ai dit que c'était terminé.
Je voulais simplement t'informer que je te ferai chercher à 19h45 pour te conduire à l'hôtel des Bergs. À tout à l'heure.
Tu entends ce que je te dis? Il n'y aura pas de dîner ce soir, et encore moins à l'hôtel des Bergs. C'était une erreur de t'y retrouver ce week-end. J'ai un mari, enfin. Tout Genève aurait pu nous y voir.
« Ne te fais aucun souci. »«
Si, justement, je m'en fais. »«
À ce soir ?»«
À jamais !»
Anastasia raccrocha au nez de Levovitch. En entendant le combiné claquer, Arma redescendit à toutes jambes au rez-de-chaussée et retourna au petit salon où était censé passer le plumeau. Elle était sous le choc. Médem trompait Moussieu. Ce soir-là, à 19h, Macaire et Besner garaient fièrement sa voiture dans le parking du Lion d'Or, à Colonie, espérant qu'on le remarquerait au volant de son bolide qui valait une petite fortune. Il pénétra dans le restaurant en prenant un air affecté, paradant avec sa femme à son bras, sentant bien qu'Anastasia attirait tous les regards. Ils furent installés à une table face au lac, comme il l'avait demandé, et ils admirèrent la vue. Genève, scintillant dans la nuit, s'étalait comme un trésor devant eux. « Ce soir, c'est champagne !» annonça d'emblée Macaire au sommelier. « Donnez-moi du Paul Roger, millésimé. Le champagne de Winston Churchill. Le champagne de la victoire !» Son mari semblait de fort bonne humeur, et Anastasia s'en amusa. « Que célèbre-t-on » demanda-t-elle. « Chouchou, tu dînes ce soir avec le futur président de la banque !» annonça-t-il dans un sourire complice. Elle fit semblant de se réjouir. « Ah, c'est merveilleux. Tu as eu la confirmation de Jean-Bénédicte ?»« Non, rien ne sera officiel avant samedi. D'ailleurs, je voulais attendre que ce soit sûr avant de te l'annoncer, mais je ne peux pas tenir ma langue. Je suis trop excité. C'est dans la poche. »« Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, » tempéra Anastasia. « Eh bien justement, ma chérie, figure-toi que ce matin, en arrivant, j'apprends que le conseil est en fait sur le point de nommer Levovitch. »« Levovitch ?» s'étrangla Anastasia. « Je comprends ton choc, chouchou. J'en ai été moi aussi complètement déboussolé. Non mais tu imagines un Levovitch à la tête de la banque Ebesner ? Ebesner, c'est Ebesner, quoi ! C'était une lubie de Tarnogol. Ah, ces étrangers, c'est quand même toujours les premiers à avoir des idées saugrenues. »«
Et donc Tarnogol a changé d'avis ?» demanda Anastasia.
« Quasiment. Disons qu'on a passé un accord, lui et moi. Il reste un infime point à régler. Mais on peut considérer que c'est acquis. »«
C'est-à-dire ?
Je t'expliquerai. Tu sais, au fond, papa voulait que je devienne président. Son histoire d'élection, c'était uniquement pour me donner une légitimité indiscutable. »
Anastasia ne sut que répondre. Pour elle, c'était justement tout l'inverse. Abel Ebesner avait passé sa vie à déconsidérer son fils. S'il avait voulu que Macaire soit président de la banque après lui, il lui aurait simplement légué ses actions. Mais elle préféra ne rien dire et se contenta de lever, à la santé de son mari, la coupe de champagne qu'on venait de lui servir. Elle était troublée par Levovitch, par l'élection à la présidence de la banque. Elle n'avait plus faim, elle voulait rentrer. Elle ne voulait pas gâcher la soirée de son mari qui semblait d'une extrême bonne humeur et affamé. Il commanda des tagliatelles aux truffes blanches, suivies d'un carré d'agneau. Elle demanda un tartare de thon et une langoustine. Il fit mettre une seconde bouteille de Paul Roger dans leur seau à glace.
Dîner au champagne et qu'il soit bien frais,
commanda-t-il au sommelier. Mais voilà qu'à 19h30, alors que les entrées venaient d'être servies, le maître d'hôtel interrompit Macaire. « Pardonnez-moi, monsieur Ebesner, mais il y a un appel pour vous. »«
Pour moi ?»
s'étonna Macaire.
« Mais personne ne sait que je suis ici. »
Intrigué, il suivit l'employé jusqu'au vestiaire et se fit remettre le combiné. Pour se donner de la contenance, il s'annonça en prenant une voix autoritaire de chef des armées.
« Oui, allô, ici Macaire Ebesner. »
Il écouta attentivement son interlocuteur qui lui donna une longue instruction, puis il s'écria dans l'appareil, comme un soldat au garde-à-vous,
« Je me mets en route tout de suite !»
Il se précipita ensuite vers sa femme et, sans même prendre le temps de se rasseoir, il lui annonça
« Chouchou, je suis désolé, mais je dois y aller. Urgence maximale, par rapport à ce que je t'ai dit avant. Finis tranquillement de dîner et prends le taxi pour rentrer, si ça te va. Je ne peux pas risquer d'être en retard. Je t'expliquerai. »
Sans attendre la réponse de sa femme, il partit. Elle resta seule à sa table, décontenancée, fixant le lac Léman que faisait briller la lune. Elle joua avec son tartare du bout de sa fourchette. Les autres clients ne pouvaient s'empêcher de la regarder. Tout chez cette femme respirait la beauté, mais une beauté d'autant plus émouvante qu'elle était teintée de mélancolie. Elle termina son verre de champagne sans toucher à son assiette. « À quoi bon dîner seule ? » songea-t-elle. Elle détestait dîner seule. Elle détestait être seule. Elle sortit son téléphone de son sac à main et hésita longuement à téléphoner à Lev. Elle n'osa pas. Elle décida de rentrer chez elle. Elle demanda qu'on lui appelle un taxi et s'en alla l'attendre dehors. Un peu d'air frais lui ferait du bien. Il était 19h45. Lorsqu'elle sortit du Lion d'Or, elle découvrit sur le parking une limousine noire qui l'attendait. La porte passagère était maintenue ouverte par le chauffeur de Levovitch, Alfred Agostinelli, qui lui tendait un énorme bouquet de roses blanches.
« Bonsoir, Madame Anastasia, » lui dit Agostinelli en souriant. « Comment allez-vous ? » ?»«
Bien, Alfred, » répondit Anastasia, troublée. Elle monta sur la banquette arrière sans même réfléchir. Puis, adressant un regard au chauffeur bienveillant qui s'installait sur le siège conducteur, elle lui demanda « Comment fait-il ? »